Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
Bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture en direct jusqu'à 20h30. Ce soir, nous allons consacrer l'essentiel de cette émission à la guerre culturelle et technologique entre la Chine et les États-Unis. C'est l'un des enjeux majeurs de la géopolitique et de l'économie en 2019, mais aussi désormais l'une des clés de l'affrontement technologique mondial. Cette bataille est décisive pour les relations internationales, mais aussi pour la France et l'Europe, pris que nous sommes en tenaille, en quelque sorte, entre ces deux grandes puissances économiques que sont les États-Unis et la Chine. Elle est plus décisive encore pour le futur contrôle des communications et des télécommunications mondiales. Pour en débattre ce soir, je suis heureux de retrouver notre chroniqueur historique de Soft Power, Pierre Aski de Rue 89, l'Obs et depuis la rentrée de France Inter. Bonsoir Pierre Aski.
Bonsoir Frédéric.
Est-ce que je dois dire que vous nous avez manqué ou est-ce que je dois vous demander si on vous a manqué?
Les deux, mon capitaine.
À vos côtés ce soir, Emmanuel Paquette de L'Express, Gilles Fontaine de Challenge et Zoé Sfès de France Culture. Bonsoir à tous.
Bonsoir Frédéric.
En première partie d'émission, je reçois dans l'actualité média Yann Moix pour évoquer son talk show chez Moix sur Paris Première. Bonsoir Yann Moix.
Bonsoir.
Paris Première, 23h10, chaque mercredi, ça fait quoi? 4 mois en gros à peu près?
L'heure des 5 mois.
L'heure des premiers bilans, on peut dire ça?
Oui, c'est ça.
Ben on va essayer, on va le faire. 20h, votre invité innovation Zoé Sfès est Stéphane Distinguin pour nous parler, alors là c'est une surprise, de WeChat.
Mais oui, WeChat, si vous avez été en Chine, et même si vous n'y avez pas été, vous devez savoir qu'il est quasiment impossible de se passer dans ce pays sans avoir WeChat sur son téléphone. WeChat, c'est cette super application.
WhatsApp, en fait.
Mais non, beaucoup plus riche, puisque c'est à la fois une messagerie, un réseau social, un moyen de paiement. C'est la super application.
Un four à micro-ondes, une moissonneuse batteuse.
Figurez-vous que quasiment, on en parlera d'ailleurs avec Stéphane Distinguin, qui est donc le créateur et le PDG
WeChat,
de Faber Nouvelle, donc qui est une entreprise de création numérique implantée à peu près partout, y compris en Chine depuis 2 ans, et qui a publié une étude absolument fascinante sur WeChat la semaine dernière sur la stratégie et les clés du succès de cette super application. On verra d'ailleurs si elle est ou pas exportable, c'est une des grandes questions.
20h10, le club de la presse numérique, nous parlerons ce soir des entreprises technologiques chinoises en France, cette fois-là pour voir comment nous sommes, non pas envahis, mais pénétré, en tout cas intéressé par les technologies chinoises. Cette émission est réalisée ce soir par Véronique Villa avec en régie Jacques Hubert. Elle a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot. Vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn. Également en podcast sur iTunes et évidemment sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct. Je commence cette émission par un clin d'œil culturel, ou plutôt deux films à voir sur les écrans actuellement qui traitent de la question noire. Si Bell Street pouvait parler est une adaptation réussie du roman éponyme de James Baldwin par Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight, formidable film d'ailleurs. Si Bell Street pouvait parler est un film également magnifique, lent comme un slow, un peu trop arty peut-être pour être divertissant malgré des acteurs époustouflants. Sur les écrans également Green Book, sur les routes du Sud, un road movie qui explore également la question noire, cette fois dans le Sud américain. Un film très contre-intuitif et qui a le mérite de rendre drôle un sujet difficile, le racisme, dans le Deep South, le Sud profond des États-Unis. Deux regards complices sur une même question, la question noire, traitée par des écritures et des visions artistiques diamétralement opposées, mais avec une même ligne de combat. Lequel de ces deux films faut-il voir ou recommander? Bien, soyons peut-être des amoureux, des lovers. Je recommanderai donc de voir les deux films, en commençant par Si Bell Street pouvait parler si on est plutôt art, et par Green Book si on est plus divertissement, et puis comparer à l'instant un extrait d'ailleurs de la bande originale de Green Book, I Feel Fine. « L'actualité, comme chaque semaine, pour commencer cette émission, et ce soir avec vous, Yann Moix, écrivain, homme de télévision, vous venez de publier un roman intitulé « Rompre » sur les relations amoureuses, qui fait suite à un précédent livre qu'on avait beaucoup aimé ici, « Dehors », un essai sur les migrants et l'immigration. Vous êtes également aux manettes de chez Moix, un talk show, chaque mercredi soir à 23h10 sur Paris Première, occasion de vous inviter ce soir. Ça fait donc un peu plus de pratiquement 5 mois que vous avez lancé chez Moix, l'heure d'un premier bilan, notamment en termes d'audience et en termes de comment vous voyez le résultat de ce projet audacieux.
Je ne suis pas un spécialiste des audiences, c'est sur Paris Première, donc c'est des chiffres qui restent quand même très modestes.
Évidemment.
Aux alentours de 50 000 à peu près.
Presque 60 000, je crois, oui, dernier épisode. Ouais.
À chaque fois qu'on a l'impression qu'une émission va cartonner, on s'aperçoit que les chiffres sont mauvais. Et quand on fait du très 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 pointu qui n'intéresse personne, tout d'un coup les chiffres sont exorbitants. Donc il n'y a pas de règles, donc il n'y a pas de recettes.
C'était quoi le projet, le format? Qu'est-ce que vous vouliez faire au début et comment ça a évolué?
Je voulais faire une émission qui vole haut, c'est-à-dire je pense que... l'intellectualisme n'est pas forcément un crime et que la culture en est pas un non plus. Et j'avais comme ambition de faire une sorte de France Culture télévisuelle.
Pour le dire autrement, vous vous voyez comme, je sais pas, un Cyril Hanouna qui lit des livres?
Non, je me voyais surtout comme une sorte d'héritier de Michel Pollack, parce que j'ai l'âge de ceux qui ont adoré Droit de réponse quand ils étaient adolescents. Et je me souviens d'un fouillis intello. Et c'est un peu l'émission. Moi, je voyais la manière dont vous parlez sans jamais savonner. Je suis très impressionné. Moi, je bafouille. Et je suis un bafouillard. Alors, je suis un peu brouillon également. Et cette émission me ressemble.
Donc, c'est du chaos, mais un peu organisé.
Alors, je travaille beaucoup. Alors, je fais aussi ça pour avoir le plaisir d'inviter des gens que j'admire. On a fait Marcel Gaucher, par exemple, sur Robespierre. Moi, je passe 15, 16, 17 heures à lire un livre. Je suis très lent. Je prends des notes.
Et surtout qu'il était très gros, le Robespierre.
Non, pas si gros que ça, mais il était écrit très petit.
Oui, ça revient au même. Et puis, c'est du Marcel Gaucher, quand même. C'est pas Pierre Aski qui vous parle de la Chine. Marcel Gaucher.
Ça, c'est vache.
Comment il
ça, c'est vache. Non, mais donc,
j'ai pas cité la radio concurrente très méchante en face de nous.
Il y a le plaisir de préparer l'émission, ça rentre en ligne de compte. Et puis ensuite, de faire la synthèse de ce qu'on lit et de pas trop égarer les gens. Mais j'insiste sur le fait que ça doit rester quand même populaire, mais que c'est quand même intellectuel. C'est une émission exigeante. Même si elle est brouillonne, qu'elle me ressemble, qu'elle est un peu chaotique parfois, qu'il y a des invectives et que de temps en temps, le brouhaha règne. Mais j'essaye de faire une émission exigeante en termes d'invités et de contenu.
Quel genre d'invité vous voulez avoir, de chroniqueur? Enfin, il n'y a pas vraiment des chroniqueurs, mais il y a des plateaux avec des gens qu'on revoit assez régulièrement.
Oui, c'est des amis, en fait.
D'ailleurs, beaucoup de filles, je pense à Liada Bécassis, il y a eu un peu, je crois...
Guillaume Erner.
Guillaume Erner, mais c'est pas une fille.
Non, mais parce que je...
Arnaud Vivian, c'est pas non plus. Caroline,
non, en fait, il n'y a pas vraiment de chroniqueur. On essaye de varier un peu les invités. C'est surtout des gens que j'aime dans la vie, pour des raisons d'ailleurs parfois symétriquement opposées. Moi, je suis capable d'être ami avec un éditorialiste des Un Rock et aussi avec un avocat, par exemple. Il n'y a pas de contradiction. Ou avec un mathématicien et un gymnaste. Et donc, j'invite des gens que j'aime dans la vie et qui souvent sont des écrivains, des intellectuels ou des journalistes.
Qu'est-ce que vous aimez dans la télé en général, comme format par exemple? Est-ce que vous avez été inspiré par des formats américains?
Non, alors je déteste la télévision, je ne la possède pas moi-même, j'ai jamais eu la télé. Je ne fais qu'une seule chose, c'est que je vais sur l'INA, le site de l'INA, et je regarde des émissions, c'est très morbide.
Plutôt comme ancienne, occupation, mais...
Des années 50, 60, 70, 80, je suis resté bloqué dans ces années-là. Donc regarde
si je vous parle Trevor Noah ou je ne sais pas David Letterman ou Jimmy Kimmel, ça vous dit
si,
pas?
Je connais, c'est des shows assez connus. Mais je regarde un peu ce qui se faisait dans les années 70-80. Alors bien souvent, on vit avec la sensation que c'était des émissions extraordinaires. Quand on les revoit, on s'aperçoit que c'était même des émissions historiques, etc. On les a un peu magnifiées avec le temps. Bon, je me souviens de Pierre Desproges qui disait apostrophe émission avec des chaises et des gens assis dessus. C'est un peu exagéré.
Mais quand on regarde
certaines émissions cultes, on s'aperçoit quand même qu'elles étaient très ennuyeuses. Le Grand Échiquier était quasiment regardable malgré la qualité des invités. C'est manqué de rythme, de souffle, c'était scolaire, etc. Bon.
C'est du, pour parler en termes américains encore, c'est du late show, c'est du talk show, c'est du late night show.
Ça, je sais rien de tout ça.
Et en même temps, c'est une émission qui n'est pas en direct, souvent enregistrée d'ailleurs deux, trois semaines à l'avance. Oui. Diffusé le mercredi, mais enregistré le mardi, vous en enregistrez plusieurs. C'est un choix d'être dans l'actualité, mais à travers les débats qui sont un peu durables, disons.
Alors oui, d'abord, c'est pour des raisons de production, on en enregistre trois d'un coup, pour des raisons d'économie. Hein.
Donc demain, vous en enregistrez trois, par exemple.
Oui, c'est ça. J'essaye de faire des choses qui soient connectées à l'actualité tout en étant un peu philosophique. L'exemple que je vais citer, c'est par exemple Raphaël Antoven, qui arrive à injecter dans les problèmes du quotidien, dans les manies récurrentes de ce qui fait nos petits matins, Twitter, etc., de l'intelligence. Alors, je dirais que c'est une émission plus intelligente que culturelle, où on réfléchit aussi sur des choses qui nous concernent. Quand Marcel Gauchet est venu parler de Robespierre, on a évoqué les Gilets jaunes, par exemple. Est-ce que nous sommes plutôt en 1789 ou en 1793? C'est un débat. Qu'est-ce que le peuple? Est-ce que le peuple, c'est la foule? Qu'est-ce que l'oclocratie? Est-ce que c'est la démocratie?
Donc tout... prendre un peu de la hauteur.
Oui, enfin de la hauteur.
La profondeur.
Grâce aux invités. Alors c'est vrai que l'émission dure une heure, c'est très dense, parfois un peu fouillis, mais il faut que ça vive. Il y a peut-être trop d'intervenants. Si j'en mets pas assez, ça manque de rythme. Si j'en mets trop, ça manque de clarté. Donc j'essaie de trouver un juste milieu, mais comme je ne suis pas un homme de juste milieu, ça restera un gros fouillis, un télo.
Zoé.
Vous dites que l'intellectualisme n'est pas mort, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à faire une émission avec des intellectuels, avec la volonté? Vous avez quand même beaucoup, beaucoup cité Touche pas à mon poste quand vous avez fait la promotion de cette émission comme modèle en disant que vous vouliez faire la même chose en intello. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à faire ça sur une chaîne payante? Sachant qu'on est quand même dans un moment où,
vous savez pourquoi j'ai...
tout le monde souffre d'entre soi, accusation.
J'ai comme référence Touche pas à mon poste parce que le véritable héritier de Michel Pollack, c'est Cyril Hanouna. Quelle est l'émission qui se fait en direct à une heure de grande écoute sur n'importe quel sujet avec des gens récurrents? C'est lui. On peut le regretter ou pas, mais ce qui manque en fait, ce sont les éditions en direct. Moi j'adore la radio parce que j'ai l'impression que des gens me parlent en temps réel. Je supporte pas de savoir que les gens qui me parlent sont peut-être morts. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime savoir que ça se passe au moment où.
Et si vous pouviez, vous le feriez,
ah oui, parce que ce serait mon rêve. Mais on n'est pas couché aussi, j'aurais adoré le faire en direct.
C'était
il y a quelque
cas,
chose de mortifère dans le différé, on n'a pas le choix, donc on essaye de donner les conditions du direct. Enfin, parfois, il y a des aberrations à la télé, il est marqué en direct, et puis il y a une petite vignette qui met en différé. Parce que c'est une émission en direct qui est devenue en différé. Donc c'est pour ça que j'avais cité Cyril Hanouna, parce qu'il y a quelque chose qui me plaît chez lui, c'est le direct. J'adore le direct.
Est-ce que vous avez la liberté d'inviter des jeunes chercheurs? Parce que là, vous nous avez cité effectivement des Marcel Gauchet, des Raphaël Antoven. Concrètement, vous êtes sur une chaîne payante, vous avez un public qui, a priori, est plutôt pas acquis, mais en tout cas qui s'y intéresse. C'est globalement le principal reproche qu'on fait à la plupart des émissions de télévision dites de débat, c'est qu'on a souvent des éditorialistes ou des grandes figures qui sont des spécialistes de pas grand-chose. Est-ce que vous invitez des jeunes chercheurs, des gens qu'on connaît pas?
Si, il y en a beaucoup. D'ailleurs, ils sont tellement pas connus que j'ai même oublié leur nom, mais ils sont venus. Si vous voulez. Non, mais ils sont venus parler de la décolonisation, de la colonisation, du racisme, du racialisme, dans l'assillage de Pascal Blanchard, par exemple, des jeunes chercheuses qui travaillent avec lui. J'essaye toujours de donner la parole à des gens qu'on n'a jamais vus ailleurs.
Une dernière question, justement, chercheuse, vous l'avez dit, on parlait de filles, vous avez été pris dans une polémique sur laquelle on ne va pas revenir en parallèle de tout ça, dans une interview donnée à un magazine féminin.
Oui, je préfère les femmes de 25 ans aux femmes de 50 ans, j'assume, oui, c'est pas très grave.
D'accord, on va pas revenir là-dessus, mais ma question est simplement sur la parité dans l'émission, parce que nous, on le sait ici, oui. À France Culture, d'ailleurs, nous sommes 5 et je suis la seule femme à cette table. Comment est-ce que vous faites pour la respecter, cette parité? Ce qui n'est vraiment pas le cas partout à France
Culture. Très honnête avec vous, il y a toujours le même nombre de femmes que d'hommes, et je vais être extrêmement franc avec vous, j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver des femmes que des hommes, parce que j'ai remarqué quelque chose, et ça prouve bien qu'il y a un gros problème encore dans la société avec les femmes aujourd'hui, que la société n'est pas tout à fait aussi égalitaire qu'on le pense, c'est que les femmes, eh bien, parfois s'excusent de prendre la parole dans l'émission. Je l'ai remarqué. Et donc, j'ai vu ça vraiment de mes yeux vus, c'est bien de faire une émission au moins pour ça. C'est que j'ai vu qu'en fait, quand un homme commence à brandir et à prendre la parole, eh bien, elles ont instinctivement la sensation qu'il faut s'effacer. Et je l'ai vu, c'est un réflexe.
C'est un phénomène d'autocensure, comme on le dit.
Je l'ai vraiment vu, et c'est choquant. C'est pourquoi, dans un premier temps, j'ai eu la sensation qu'il fallait que je prenne des grandes gueules parmi les femmes, et en fait, j'ai demandé plutôt aux hommes de la mettre un peu en veilleuse, ce qui est difficile. Mais
c'est pourquoi il y avait Eliette Abécassis,
oui,
Caroline Fouras,
et bien même Eliette Abécassis, qui a quand même des choses à dire. Hein.
Oui, qui est une grande écrivaine, pour le coup.
Exactement. Et quand quelqu'un commençait à monter le ton parmi les hommes, eh bien les femmes s'effacent.
Alors que les hommes continuent à parler sur les femmes, j'ai assisté
derrière. C'est sinistre, mais je l'ai vu de mes yeux vus.
L'émission est produite par la maison de production Tout sur l'écran de Catherine Barma. Ça a des conséquences, des avantages d'être dans ce type
l'avantage
de...
L'avantage est que je la connaissais déjà, dont on n'est pas couché.
Bien sûr, puisqu'elle produit aussi, on n'est pas couché.
Ouais. Ça, si vous voulez, on gagne un temps fou parce que ce sont des équipes très sérieuses et ça va vite. c'est bien huilé, quoi, si vous voulez. Et puis, comment dire, on avait décidé que je pouvais proposer les invités que je voulais, et ça n'a jamais été remis en question, donc c'est très agréable. Ah, on n'est pas couché, je m'écrasais, si vous voulez.
Là, c'est quoi pour elle, ou pour ce type de boîte de production, et même pour vous, c'est un peu une forme d'expérimentation, on teste ce qu'on peut faire, et puis après, vous verrez comment vous évoluez dans ce média audiovisuel, ou
j'ai pas eu tout envie de faire télé,
c'est un coup de juste de cœur, vous faites ce que vous avez envie. Et...
En fait, si vous voulez, j'ai fait l'émission que j'aurais adoré regarder comme spectateur. Ce que j'adore dans la vie, c'est lire et faire partager. Si j'aurais adoré être prof, par exemple. Voyez. Donc j'adore.
C'est encore possible.
Oui,
mais
j'adore mettre en valeur des gens. Et après avoir mis en valeur beaucoup de gens morts, parce qu'on peut toujours rendre hommage à des gens qui sont plus là. C'est facile de dire que Oscar Wilde et Antonin Artaud étaient des génies. Ça engage personne. Mais c'est bien aussi de savoir qu'il y a des gens extraordinaires qui sont en vie. On parlait de Marcel Gaucher. Bon, on en parle beaucoup. Mais il y a des chercheurs.
Ça veut dire prendre des risques aussi. Alors, ça veut dire.
Oui, mais
Marcel Gaucher, c'est plus vraiment.
C'est plus vraiment. Mais je veux parler en général.
Des risques d'audimat, parce qu'on a invité Jean-François Bronstein, par exemple, qui était venu parler de l'animalisme. Personne ne le connaît vraiment, Jean-François Bronstein. Bon, il était passionnant. Les travaux de Pascal Blanchard sur la colonisation sont passionnants, etc. J'essaye vraiment de donner envie aux gens d'ouvrir les livres dont je parle.
Merci Yann Moix d'être passé chez Noux. ça s'appelle Chez Moix, c'est sur Paris Première et c'est donc tous les mercredis soirs à peu près 23h10 sur Paris Première. Dans un instant, on parle de la guerre technologique et culturelle entre la Chine et les États-Unis, mais juste avant et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine par une actualité musicale, un mot sur le Super Bowl justement qui aura lieu cette nuit à Atlanta vers minuit et demi heure française. Avec la fameuse prestation musicale de la mi-temps. Elle devrait être assurée cette nuit par le groupe blanc Maroon 5. Et je dis blanc à dessein car une vive polémique a lieu actuellement autour des violences policières à l'égard des Noirs et des joueurs de football américain notamment qui s'élèvent par des symboles contre ces violences. Généralement, ils posent un genou à terre durant l'hymne américain. Donald Trump a vu rouge, on a éliminé des matchs ceux qui s'agenouillaient ainsi. Mais les musiciens font, eux, de la résistance. Pétition, appel au boycott... Jay-Z s'est mobilisé, beaucoup ont refusé de se produire ce soir durant cette célèbre mi-temps du Super Bowl et c'est comme ça qu'un groupe blanc se retrouve en vedette et sous le feu des critiques. Vont-ils chanter cette nuit? Oui, probablement. Et poser un genou à terre, c'est possible, mais non probable. On verra. Girls Like You, Maroon 5. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. France Culture, 19h passé de précisément 20 minutes.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Ce soir, dans Soft Power, on parle de la tech war, la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. Plusieurs sujets importants, complexes, à la fois techniques, mais également extrêmement importants en termes de géopolitique, je l'ai dit, et de bataille technologique. On va parler bien sûr de Huawei, ça se prononce comme ça, Pierre Aski ?
Huawei.
Alors ça s'écrit Huawei, mais on doit dire Huawei, c'est ça ?
Il faut aspirer le H.
Il faut aspirer le H qui devient un R, c'est pas très logique.
Huawei, non, c'est... Mais c'est comme ça.
C'est le roi Wei.
Et Xiaomi alors. Xiaomi.
Voilà, on fait un cours de prononciation chinoise ce soir et Zoé Suez a une application spéciale.
C'est dire la place ces noms vont occuper dans nos vies.
Mais c'est Pierre Aski qui m'a formé.
À parler chinois. On parlera des avancées technologiques de la Chine, on parlera des géants, hein, ce qu'on appelle les fameux BAT, BATX, même Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. On parlera des nouvelles licornes et les nouveaux qui arrivent. Et puis, au cours cours de l'émission, on évoquera les secteurs dans lesquels la Chine est évidemment très en avance. Bien sûr, la question de la 5G, l'intelligence artificielle, les enceintes connectées, les assistants vocaux, etc. Mais peut-être pour commencer avec vous, Pierre Aski, il y a au fond une guerre technologique, mais qui est reflétée aussi à travers une géopolitique plus complexe. On a parlé du Made in China 2023, la route de la soie, la muraille de Chine, la question de la censure. Bref, il y a un contexte d'ensemble qui explique aussi tout ce qui est en train de se passer.
En fait, si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter à 1957, le moment Spoutnik des États-Unis. C'est-à-dire que l'Union soviétique lance le premier engin autour de la Terre et les Américains ont un choc qui est de constater l'avancée de leur rival stratégique du moment sur une technologie de pointe. Et Eisenhower prend deux décisions, il crée la NASA, on ignore que ça, c'est après le Spoutnik, mais ça date de cette époque. Et l'autre, qui est plus importante encore, c'est la DARPA, qui est quelque chose qui est central encore aujourd'hui dans l'univers américain et dont l'objet est de veiller à ce que les États-Unis aient un coup d'avance dans ce qu'on appelle les technologies de rupture. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que pour la première fois depuis cette époque-là, les États-Unis sont face à une autre puissance qui est en mesure de les dépasser sur des technologies de rupture que sont l'intelligence artificielle ou d'autres. Et c'est là qu'il y a cet électrochoc auquel on assiste aujourd'hui, alors qui prend parfois la forme un peu caricaturale de Trump qui déclenche des guerres commerciales, etc. Mais en fait, le cœur de ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, c'est cette rivalité technologique. Les États-Unis ne veulent pas laisser la Chine les dépasser sur des technologies de rupture.
Ça veut dire que Trump n'est qu'un instrument de ça, mais que ce serait la même chose sans doute avec Obama auparavant ou un autre président par la suite. C'est les États-Unis contre la Chine et non pas Trump.
Il y a paradoxalement un assez large consensus à Washington autour de cette confrontation larvée avec la Chine. Les démocrates, et en particulier la majorité démocrate de la Chambre des représentants, est totalement d'accord avec Trump sur le fait de dire stop à la Chine sur un certain nombre de pratiques commerciales.
Donc c'est une sorte de patriotisme économique, de patriotisme technologique qui répond à un patriotisme économique chinois.
Et d'impératif de superpuissance. Alors il y a toute cette idée aussi derrière qu'a résumé Graham Allison, qui est un chercheur américain qui a fait un livre sur ce qu'il a appelé le piège de Thucydide, qui est l'idée que lorsqu'une puissance dominante est défiée par une puissance montante, la guerre devient inévitable parce que on surestime les mouvements de l'autre, on n'a pas de précédent pour évaluer ce qui est en train de se passer et à un moment ça dérape et ça provoque une guerre. Le piège de Thucydide, c'est Athènes et Sparte en 430 avant Jésus-Christ. Donc c'est Graham Allison a façonné cette thèse qui résume bien, je trouve, l'ambiance du moment.
Dernière question un peu générale, Pierre Aski, on est dans une, on va revenir sur Huawei en particulier, mais que sont ces entreprises, ces géants chinois privés en théorie, mais dont les liens avec le parti illustrent une sorte de ce qu'on appelle un capitalisme d'État, où il y a d'autres formules pour évoquer quelque chose qui est très atypique pour les Français comme pour les Américains.
Toute l'ambiguïté chinoise, c'est que vous avez à la fois un secteur d'État qui est très fort et un secteur privé, en particulier dans la technologie, qui est extrêmement puissant. Tous les grands noms que nous citons depuis tout à l'heure, que ce soit Huawei, Xiaomi, Alibaba, sont des entreprises privées. En revanche, il faut savoir qu'en Chine, il n'y a pas de véritable secteur privé au sens de l'autonomie totale de gestion. Et d'ailleurs, le patron, le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, a reconnu récemment qu'il était membre du Parti communiste. Le fondateur de Huawei,
Zhang
Zhengfei, est lui aussi un ancien officier de l'armée populaire et membre du parti. Et il y a c'est au cœur de la problématique, c'est-à-dire est-ce que lorsqu'on est les États-Unis, est-ce qu'on peut laisser une entreprise d'un pays rival stratégique et potentiellement adversaire, voire ennemi, une entreprise dirigée par quelqu'un qui appartient au parti dominant de ce pays, construire vos infrastructures clés de demain. C'est un peu la question de confiance qui est au cœur de la problématique actuelle.
Est-ce que ça s'est pas accru avec l'arrivée de Xi Jinping et ce fameux article 7, parce que c'est le fameux article 7 qui a été adopté en 2017, donc il y a deux ans. Toute organisation ou citoyen doit, dans le respect
aspects de la loi, soutenir, donner assistance et coopérer avec le renseignement national et maintenir le secret sur toute activité de renseignement dont il a connaissance. Ça, c'est quoi? Parce que cette loi, elle revient tout le temps, elle est citée beaucoup par les diplomates américains.
Oui, sur le plan formel,
avec l'idée d'un backdoor.
Sur le plan formel, effectivement, il y a ce texte auquel est soumis le PDG de Huawei comme n'importe quel autre citoyen, c'est-à-dire que si demain il reçoit un ordre du service de renseignement chinois, il est obligé de le respecter. Là où Xi Jinping a changé la donne, c'est qu'il a affirmé cette puissance chinoise. Elle était jusque-là dans les objectifs réels de la Chine, mais les dirigeants, le prédécesseur de Xi Jinping, Hu Jintao, parlait d'émergence pacifique de la Chine. L'idée, c'était de rassurer le monde sur le fait que l'émergence de la Chine n'allait pas produire de tensions ou de craintes d'hégémonie. Xi Jinping a cru, ou en tout cas a décidé, que l'heure de la Chine était arrivée. Et donc, le plan China, Made in China 2025, qui donne une série de domaines technologiques sur lesquels la Chine doit être la première puissance mondiale en 2025.
Lesquels sont-ils, d'ailleurs?
L'intelligence artificielle, les voitures électriques,
la biotechnologie,
les biotechnologies, etc. Donc, vraiment, enfin, ça couvre l'ensemble du champ de la modernité d'aujourd'hui.
Gilles Fontaine, toujours sur cette introduction, on est aussi face à un géant, la Chine, dont les avancées technologiques et la puissance sont phénoménales.
Oui, absolument. Et en fait, si on peut remonter, alors pas aux années 60, aux années 50, mais au début du 21e siècle, c'est assez fascinant de voir comment et avec quel pragmatisme les Chinois ont construit finalement leurs différentes industries. Si on prend simplement l'industrie informatique ou l'industrie des télécoms, c'est assez amusant. D'ailleurs, il y avait même cette même narration dans la construction de ces entreprises. On prend une boîte comme Lenovo. On était aussi dans cet esprit. L'entreprise est née dans un garage, tout petit, avec l'aide de l'université, et puis des fonds. Alors qu'on sait que dès le départ, il y a eu une volonté en fait des instances et du gouvernement chinois, du Parti communiste chinois, d'arriver très vite dans la cour des grands. Et ce pragmatisme, on le voit dans la façon dont ils ont aussi au départ accueilli tous ces grands groupes, notamment les grands groupes de l'Internet. On a vu Facebook y aller, on a vu Google y aller, et ils se sont tous un petit peu cassés les dents au bout d'un moment. Construire des partenariats, hein, d'ailleurs, mais ça s'est fait dans toutes les industries, même dans l'industrie automobile et autres. Les Chinois font ça au départ pour apprendre, pour aussi aspirer de la technologie.
Et faire des copies ensuite, les fameux copycats.
L'histoire de Huawei est assez intéressante d'ailleurs aussi sur ce volet-là, puisque on sait que l'entreprise s'est construite au début non pas sur les réseaux de télécommunications mobiles, mais d'abord sur les fameux routeurs Internet. Et ils ont entièrement aspiré la technologie Cisco, qui a eu beau déclencher tous les procède possible, n'a jamais eu gain de cause, évidemment, est absolument absente du marché chinois et possède aujourd'hui l'avance qu'on connaît dans tous ces domaines.
Emmanuel Paquette.
Ouais, j'ajouterais quand même deux choses. C'est que aujourd'hui, il y a un contexte particulier en Chine, comme le rappelait tout à l'heure Pierre. Le premier contexte, c'est que l'excédent commercial chinois vis-à-vis des États-Unis, il est très en faveur des Chinois, c'est-à-dire 34 milliards d'excédent budgétaire commercial par rapport aux États-Unis. C'est ce que aujourd'hui Trump refuse, c'est-à-dire il considère que la Chine n'ouvre pas assez son marché contrairement aux États-Unis et que du coup ça crée un déséquilibre. C'est vrai aussi pour l'Europe qui a un excédent commercial négatif vis-à-vis de la Chine. Donc il y a un système de réciprocité. En gros, on dit la Chine, vous ne jouez pas le jeu, c'est-à-dire vous protégez vos entreprises sur votre marché local, mais vous empêchez nos multinationales de s'implanter sur votre marché.
D'une certaine manière, c'est pas une découverte depuis le début, on a compris ça.
Non, c'est effectivement, mais le pendant, qui est le deuxième point dont je voulais parler, c'est que aujourd'hui, avec le plan Made in China 2025, l'idée c'est de pousser des entreprises à sortir du territoire chinois et aller venir sur les nouvelles technologies en Europe et aux États-Unis. Et pour cela, donc, il faut une avance technologique, certes, mais il y a aussi les banques chinoises qui sont derrière, qui financent de manière massive ces entreprises-là, ce qui crée d'ailleurs un dysfonctionnement par rapport à des entreprises plus traditionnelles en Europe et aux États-Unis qui pourraient pas rivaliser. Il y a très longtemps, il y a eu une enquête qui a été ouverte contre ZTE et Huawei, hein, donc deux entreprises chinoises dans les réseaux de télécommunications au niveau européen, justement pour aide d'État déguisée des banques chinoises qui finançaient en sous-main ou qui financeraient en sous-main ces géants-là pour s'implanter sur le marché européen au détriment des acteurs locaux. Donc on voit que quand il y a une logique et politique qui est mise en place et mise en branle par le par le gouvernement chinois. Derrière, c'est toute l'activité qui suit. C'est pas simplement les acteurs, mais aussi les banques qui se mettent au diapason.
Et le cadre de tout ça, c'est les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, qui sont le déploiement de ces entreprises à l'échelle mondiale.
Avec tout un parcours géopolitique, pour le coup, à la fois par les mers et aussi par la terre, avec l'émergence de villes, de ponts, de chemins de fer, d'aéroports, etc. Alors, venons-en peut-être maintenant à un équipementier particulier, Huawei, justement. Le parquet de New York et le département de justice américain visent la directrice financière, enfin la PDG financière du groupe, qui s'appelle Madame Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei. Trois chefs d'inculpation potentiels, tout ça est encore en débat. Vol de secrets industriels, fraude bancaire, violation de l'embargo sur l'Iran. Pierre Aski, comment on pourrait résumer cette bataille en cours?
Alors d'abord, s'en prendre à Madame Meng, c'est pas anodin. Non seulement c'est effectivement la directrice financière, mais c'est la fille du fondateur. C'est l'aristocratie rouge qui est au cœur du régime chinois actuel. Xi Jinping lui-même est un fils d'eux. Cette notion d'aristocratie, de prince rouge, comme on dit en Chine, est très importante. Donc on s'est attaqué à quelqu'un qui est au cœur du système. Deuxièmement, Huawei, c'est la première... le premier champion national chinois qui a réussi à l'échelle mondiale. Huawei est aujourd'hui numéro un mondial pour l'équipement, deuxième en smartphone et a l'ambition de devenir premier en 2020. Et donc, on s'attaque à la société emblématique de cette montée en puissance de la Chine. Après, si on regarde de près l'acte d'accusation, il y a des choses assez sérieuses. Et notamment, contrairement à ce qu'on entend souvent, ce qui est reproché à Huawei, c'est pas d'avoir violé les sanctions unilatérales de Donald Trump, ce sont les sanctions de l'époque pré-accord nucléaire, donc les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'appliquaient et qui ont été votées aussi par la Chine. Madame Meng avait mis en place, et son nom figure sur les documents, tout un système de société écran pour pouvoir continuer à commercer avec l'Iran malgré l'embargo. Pareil sur le vol de technologie, il y a des choses assez croustillantes.
Notamment sur T-Mobile.
Et il y a en particulier tout un système de bonus pour les salariés de l'entreprise s'ils arrivaient à voler des technologies de leurs concurrents.
En fait, c'est de l'espionnage économique.
C'est de l'espionnage économique. Donc il y a quand même un dossier assez étayé sur lequel les Américains ont des billes.
Alors elle a été...
Le problème, c'est qu'elle a été arrêtée au Canada, à Vancouver, à la demande de la justice américaine et qui a maintenant une procédure d'extradition qui est lancée.
Et là et où pour les Américains, elle est toujours assignée en résidence.
Elle a été libérée
sous caution.
Voilà. Elle reste au Canada où elle possède plusieurs résidences. Mais l'affaire aurait pu être réglée politiquement au début, elle ne l'a pas été et aujourd'hui elle est dans des rails judiciaires. Donc il va y avoir des auditions bientôt dans les tribunaux canadiens pour une procédure d'extradition qui va durer très longtemps.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors cette histoire, elle dure depuis longtemps, hein, puisque c'est vrai que, par exemple, Huawei n'a pas eu le droit de candidater aux appels 4G, par exemple, lorsque la 4G est arrivée aux États-Unis. Donc, à l'époque, ça a fait quand même le bonheur d'Alcatel, hein, le français, qui a réussi à signer beaucoup de contrats avec des grands opérateurs américains sur le territoire US, sans justement avoir en face de lui Huawei en tant que concurrent. Donc là, pour le coup, on a bien vu... le côté un peu protectionnisme américain, sachant qu'Alcatel avait fusionné avec Lucent, donc une société américaine. Donc on avait déjà une société franco-américaine qui gagnait des parts de marché sur un territoire sur lequel les Chinois étaient exclus. Donc ça, c'était le premier point, déjà à l'époque, justement, pour des questions, des soupçons d'espionnage par rapport au réseau télécom. Aujourd'hui, c'est vrai ce qu'on voit, on arrive à un nouveau stade dans la guerre commerciale, puisque les États-Unis font pression sur leurs alliés historiques pour, à leur tour, demander à ce que Huawei ne puisse pas candidater cette fois aux infrastructures 5G. Il se trouve que les Five Eyes, ce qu'on appelle les Five Eyes, hein, c'est-à-dire les cinq pays aujourd'hui qui s'échangent des informations...
Dans la France
Non, justement.
L'Angleterre, les
anglo-saxons. C'est ça, c'est les pays anglo-saxons.
Australie,
Nouvelle-Zélande.
Et le Japon pourrait entrer dedans, visiblement.
Enfin, c'est vraiment... Non, a priori, non. Non. Après, il y a un deuxième cercle qu'on appelle des Five Eyes, dans lequel effectivement se trouve la France, probablement le Japon, parce que c'est pas des choses qui sont connues, puisque c'est des échanges entre les services de renseignement. Et on voit aujourd'hui que les différents services de renseignement de l'Australie, notamment de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, se sont mis au diapason justement pour exclure Huawei. Il reste encore deux pays qui sont le Canada, justement, où est aujourd'hui retenue donc la directrice financière de Huawei, et l'Angleterre, qui aujourd'hui n'ont pas pris position contre Huawei. Donc la pression est assez forte sur ces deux pays. La France, elle, est en train de prendre une mesure d'ici peu dans la loi Pacte, justement pour essayer d'auditer de manière un peu plus forte les composants des équipementiers télécoms pour voir si ils ne portent pas préjudice à la sécurité nationale.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a eu des propos assez durs, hein, s'est dit être inquiet justement très précisément sur Huawei.
Il y a eu des arrestations en Pologne aussi, d'autres cas de Huawei dans les semaines qui ont suivi, donc on est sur... Et évidemment, en représailles, il y a eu aussi des arrestations.
C'est
très important.
C'est en ça que c'est en train de devenir une crise un peu centrale dans les relations entre la Chine et le reste du monde. Donc les Chinois ont pris des mesures contre le Canada, puisque c'est au Canada que Mme Meng est détenue. Et il y a deux citoyens canadiens, dont un ancien diplomate qui travaille aujourd'hui pour un think tank.
En congé sabbatique, c'est ça.
Et qui ont été arrêtés, sont gardés au secret, sans possibilité de voir des avocats. Et c'est là le plus extravagant, un jeune Canadien qui avait été condamné à 15 ans de prison pour trafic de drogue, qui a été sorti de sa cellule, rejugé en urgence et condamné à mort. Alors je ne pense pas que la sentence sera exécutée, mais enfin voilà, la pression est quand même très très forte.
Donc c'est la justice chinoise qui fait des réprimandes contre des ressortissants australiens parce qu'une dirigeante d'une entreprise chinoise a été invitée en
justice. La justice chinoise est rattachée au parti, donc
Gilles Fontaine.
Oui, sur ces histoires, je voulais revenir juste deux secondes sur cette histoire de ces histoires d'espionnage industriel. Là aussi, ça remonte effectivement assez loin. Il faut se souvenir aussi que les premiers partenaires des Chinois dans les télécoms, c'était Alcatel, justement. Alcatel en France, au moment où le groupe était français, et ça remonte aux années 80. Il y a une filiale commune qui avait été créée entre des groupes évidemment publics chinois et Alcatel. Et Alcatel était évidemment minoritaire dans ces groupements. Un peu plus tard, je l'ai cité, effectivement, des groupes américains qui avaient commencé à collaborer avec Huawei et qui finalement recrutaient des trainees, les stagiaires qui travaillaient notamment pour Cisco aux États-Unis. Tout d'un coup, Cisco s'est rendu compte que la plupart de ces stagiaires étaient rapatriés en l'espace de quelques mois à Shenzhen. Aujourd'hui, effectivement, les États-Unis se réveillent. C'était peut-être un petit peu tard, d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que dans le domaine de la 5G, Huawei a pris une avance considérable. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du tout d'un groupe qui vend du bas de gamme pas cher. On parle d'un groupe qui est à la pointe de la technologie, c'est bien le souci, d'ailleurs, et qui vend ses équipements même plutôt plus cher que Nokia ou Ericsson, qui sont ses deux concurrents européens.
Pour bien comprendre ce dont on parle, Huawei, notamment, Huawei est important dans le secteur de la 5G. C'est aussi la bataille de la 5G qui se joue. Emmanuel Paquet, ça veut dire quoi? La 5G, ça va avoir une utilité particulièrement déterminante sur les objets connectés, les voitures autonomes, sur l'intelligence artificielle, etc.
Oui, ça touche même à la structure des réseaux télécoms, qu'il faut revoir entièrement, quasiment, puisque la structure même est différente. On parle, par exemple, de network slicing, par exemple, c'est-à-dire on va pouvoir mettre des tranches dans le réseau, réserver certaines tranches de communication, par exemple, pour des choses prioritaires, et puis des choses comme le jeu vidéo, par exemple, ou des appels qui sont moins importants, dans des couches un peu inférieures. Donc on va pouvoir... Alors, je suis désolé pour ce terme, mais hiérarchiser, voilà, au sein d'un même flux de données, ce qui est extrêmement important, notamment pour la voiture connectée. Parce que si vous avez un défaut de quelques millisecondes, vous pouvez avoir un accident. Donc là, il faut que la qualité soit optimale. Alors que quand c'est pour du jeu vidéo, alors là, les joueurs vont m'en vouloir, mais si ça lag, comme on dit, donc s'il y a un petit temps de réponse, ça peut tuer personne, sauf vous faire perdre la partie, donc ça peut être énervant. Mais c'est moins crucial qu'une voiture autonome.
Donc ça, c'est les enjeux qui sont derrière aussi cette bataille, d'une certaine manière, Pierre Asquier.
Oui, et le problème qu'ont aujourd'hui, et c'est vrai que ce que disait Gilles tout à l'heure sur le fait que les Américains se réveillent un peu tard, c'est que Huawei a un coup d'avance, et aujourd'hui, renoncer à utiliser du matériel Huawei fera prendre du retard aux opérateurs, en particulier en Europe, où certains sont déjà engagés avec Huawei, et on parle de jusqu'à 2 ans de retard dans un domaine qui est aujourd'hui effectivement le nec plus ultra de la transformation technologique de nos sociétés. Et c'est là qu'il y a un enjeu, qu'il y a un équilibre entre les enjeux de sécurité qui sont ceux que mettent en avant à la fois les services de renseignement et les gouvernements, les enjeux économiques que sont ceux des opérateurs et les relations internationales qui sont au cœur de toute cette affaire.
Parce qu'il faut rappeler, Huawei, c'est l'entreprise qui dépose le plus de brevets en Europe en ce moment, depuis 2 ans. Une question, est-ce que vous y croyez, vous, avec cette potentialité, que finalement, si le monde se divisait en deux, ceux qui suivent les recommandations des Américains et ceux qui ne le font pas, on serait dans deux écosystèmes technologiques tout à fait différents, plus ou moins poreux, avec aussi aussi cette question qui est rappelée très justement dans un article du Monde avec les envoyés spéciaux en Chine. Peut-être que l'Europe, peut-être que les États-Unis auront les moyens d'essayer de développer leur propre 4G, alors que dans la plupart des autres pays, il n'y aura pas d'autre option que celle de la Chine. Est-ce que c'est envisageable, ça?
Mais les Américains, de toute façon, sont sortis de cette industrie-là, et effectivement, quand on va aux États-Unis, on tombe beaucoup sur du Nokia et du Alcatel, Lucent en réalité, et sur du Ericsson, jamais sur du matériel chinois, ça, Emmanuel l'a dit. Mais c'est vrai qu'il y a deux soucis, comme vous l'avez dit, Pierre. Il y a le problème technologique, et le problème technologique, c'est que ces matériels ne sont pas interopérables, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre un bout de Nokia quelque part, un bout de Huawei quelque part, et un bout d'Ericsson à un autre endroit. C'est un petit peu the winner takes all, comme disent les Américains. Donc ça fait peur effectivement au gouvernement. Après, en Europe, on voit bien là aussi que on a cité le cas de la France, qui est un petit peu qui n'ose pas trop se prendre Pékin de face, donc met la pression sur les opérateurs. Mais en Allemagne, jusqu'à présent, on a toujours été extrêmement prudent, par exemple, en disant on attend toujours la preuve. C'est un petit peu la même histoire, toute proportion gardée, que pour Kaspersky, le géant du logiciel antivirus, qui a eu un petit peu les mêmes soucis, où les Français et les Allemands sont un petit peu alignés, finalement, en disant alors les Français sont un peu sortis du bois, mais en tout cas, les Allemands restent extrêmement prudents sur la question.
Et pour revenir à la question de Zoé, c'est vrai que on est aujourd'hui menacé d'une vraie divergence technologique dans le monde entre une zone qui sera équipée par les Chinois, qui sont dominants par exemple en Afrique ou dans une partie de l'Amérique latine, et de l'autre côté une zone occidentale. Ça rappelle un peu la guerre froide.
Le mot est
dans l'air, même si l'interaction entre les économies est aujourd'hui tellement intégrée par rapport à ce qu'existait à l'époque de l'Union soviétique et des États-Unis, qu'on voit mal comment cette guerre froide pourra se matérialiser.
Guerre froide à l'heure de Twitter, elle a un hashtag qui lui est dédié, Tech War, justement, la guerre technologique, Emmanuel Paquette.
Oui, juste une petite chose, il y a quand même une grande hypocrisie dans le fait aussi d'attaquer Huawei, tout simplement parce que il suffit que quand Snowden a parlé, il a diffusé notamment des photos sur lesquelles on voit des gens de la NSA, donc les services de renseignement américains, manipuler des routeurs Cisco, qui sont aujourd'hui le cœur des réseaux télécoms et Internet que tout le monde utilise dans le monde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que la NSA, donc les services de renseignement américains, utilisent leur équipement national Cisco, qui est quasiment en situation de monopole dans le cœur des réseaux d'Internet, pour écouter ce qui s'y passe. Donc les Américains reprochent en fait aux Chinois ce qu'eux-mêmes font. C'est ça qui est un peu hypocrite dans ce genre de choses.
Et après, on peut dire qu'il vaut peut-être mieux, alors c'est une question démocratique,
c'est ce que
par les Américains plutôt que par les Iraniens, les castris, les cubains,
mais c'est sûr,
ou les Chinois.
La question politique, moi, c'est la question qu'on se pose, notamment pour les fameux alliés et pour l'Europe. C'est pas ça la question.
La question, c'est aussi qui vote. Espérons que les Français aussi écoutent un petit peu.
C'est-à-dire qu'il y a plus d'échanges d'informations entre les services de renseignement américains et français que les Français et Chinois, parce qu'il n'y en a pas. Donc, vaut mieux garder les Américains comme alliés.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
France Culture, 19h45, en direct dans Soft Power ce soir. Nous sommes avec Pierre Aski de l'Obs et de France Inter, Gilles Fontaine de Challenge et Emmanuel Paquette de L'Express. On parle de la tech war, de la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. Et dans cette dernière partie, avant 20h, deux points peut-être sur lesquels j'aimerais qu'on insiste un petit peu. D'abord, la question des entreprises chinoises et ensuite les évolutions, notamment en termes d'intelligence artificielle. Lorsqu'on regarde la liste des entreprises au niveau mondial les plus importantes dans le secteur d'Internet, il y a 20 entreprises, il y en a 11 qui sont américaines et 9 chinoises. Ça donne une idée quand même de cette bataille et aussi de l'absence de tous les autres. Peut-être une réaction, Pierre Aski, Gilles Fontaine, Emmanuel Paquette sur ça?
C'est le signe de l'investissement prioritaire absolument massif fait par l'État et par le privé en Chine, mais essentiellement par l'État, parce que les banques, le système bancaire chinois est étatique, donc c'est une volonté politique. Et d'ailleurs, dans le plan Made in China 2025, il y a un chiffre de 300 milliards de dollars devant être investis dans ces secteurs prioritaires. Donc on a là le résultat de 20 à 30 ans de déploiement absolument prioritaire. Et ça s'arrêtera pas là, parce que on est là au cœur, et c'est la la capacité qu'a eu ce régime de comprendre que c'est là que ça se passait. Moi, je me souviens d'être arrivé en Chine vers la fin des années 90 et de voir partout des appels à s'inscrire sur Internet. Et je comprenais pas. Je me disais, mais ils sont fous. C'est la liberté qui va arriver par Internet. Et en fait, ils avaient compris. Et on parle là d'il y a 20 ans que construire un secteur de télécom puissant, moderne et performant, c'était la clé du développement économique. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de quoi ? On parle de données. Et la Chine est aujourd'hui la plus grande base de données au monde, avec 800 millions d'internautes et absolument aucune règle de protection des données personnelles. Et donc c'est là on est dans un plan de 20 ans. Qui arrive aujourd'hui à maturation.
Quels sont les leaders de ces entreprises ? On parle souvent des BAT, des BAT, on a rajouté le X pour Baidu, Alibaba, Tencent et donc Xiaomi, qui est une sorte un peu de Apple pour le dernier, où là on a vraiment des abus de position dominante, c'est les GAFA presque en pire, je dirais. Mais il y a aussi, non seulement cette génération-là, mais il y a aussi les nouveaux, ce qu'on appelle les nouvelles licornes chinoises, Emmanuel Paquette, dont l'équivalent d'Uber, l'équivalent de on a évoqué WeChat, mais aussi un équivalent de Facebook, etc.
Oui, alors aujourd'hui, effectivement, les plus connus, ce sont quand même effectivement les BATX dont on disait. Donc Baidu, c'est le moteur de recherche, hein, c'est un espèce de Google. Voilà, mais lui qui n'est pas sorti de ses frontières, qui a tenté de sortir de ses frontières, et ça s'est pas très très bien passé pour l'instant, mais qui va refaire des tentatives. Après ça, on a Alibaba. Alibaba, c'est le géant du commerce en ligne, qui est coté en bourse, qui vaut 435 milliards de dollars.
Qui est très
présent
en France, y compris des entreprises françaises vont aujourd'hui sur Alibaba plutôt que sur Amazon.
Exactement.
J'avais l'exemple d'une grande ONG très connue à Paris qui fait tous ses achats sur Alibaba et non pas sur Amazon et encore moins au Monoprix du coin. Donc
c'est un des BAT qui est sorti assez vite de ses frontières, effectivement. À côté de ça, il y a Tencent. Alors Tencent, ça dit pas grand-chose aux gens, si ce n'est WeChat qui est le système de messagerie. Mais en fait, beaucoup de gens aujourd'hui jouent à des jeux vidéo qui sont produits ou détenus directement par Tencent. Par exemple, Supercell, qui est aujourd'hui Clash of Clans, appartient directement à Tencent. Fortnite, par exemple, Fortnite est détenu à 40% par Tencent. Donc on voit aujourd'hui que c'est un gros acteur du jeu en ligne et du jeu vidéo qui se développe énormément à l'international. Et le plus gros jeu au monde qui s'appelle League of Legends appartient aujourd'hui également à Tencent. Donc c'est un gros acteur du jeu vidéo et de la publicité en ligne. Et à côté de ça, donc on a effectivement Xiaomi. Xiaomi, donc c'est l'équivalent d'Apple, mais en beaucoup plus petit. Xiaomi, lui aussi, est sorti de ses frontières. Donc il est que numéro 5 ou 6 sur le marché chinois, mais il est numéro 1 sur le marché indien. C'est le plus gros vendeur de terminaux sur le marché indien depuis l'année 2018-2019. Donc aujourd'hui, c'est une exportation qui fonctionne assez bien. Ils ont ouvert des magasins, notamment en France, depuis peu. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Mais donc ça, c'est un des 4-5 grands acteurs qui sort de ses frontières. Et derrière, effectivement, il y en a d'autres qui commencent à arriver. Il y en a un dont on entend parler. Hein. Je suppose que tout le monde a entendu parler de l'application TikTok, qui est une application vidéo sur laquelle on peut chanter sur un clip et refaire un clip un petit peu à sa sauce. TikTok, aujourd'hui, ça appartient à ByteDance, qui est donc une société chinoise, qui est valorisée 75 milliards de dollars, donc ce qui est assez monstrueux. Juste après, justement, le Uber chinois qui s'appelle Didi, qui, lui, est valorisé 80 milliards de dollars. Donc, ces deux-là, aujourd'hui, représentent les futures licornes du marché chinois.
Et Didi a battu à plate couture Uber, qui avait tenté de s'implanter en Chine et finalement...
Avec des règles qui ne sont pas si économiques que ça.
C'est évident, oui, tout à fait. Et je rajouterais juste une autre marque dont on entend pas mal parler, c'est DJI, qui est le premier producteur de drones civils au monde, 70% de parts de marché à l'échelle mondiale.
Et aujourd'hui, les entreprises chinoises, les start-up chinoises de l'intelligence artificielle récoltent plus de fonds que les start-up américaines dans ces mêmes domaines. Et moi, je voulais rajouter aussi une autre marque chinoise que nous, grand public, on connaît mal.
On ne fait pas de publicité pour les marques sur France Culture.
Voilà, mais celle-là, vous la voyez peu parce qu'elle s'appelle, et pourtant elle vous voit, c'est une boîte qui s'appelle Hikvision et qui est spécialisée dans les caméras de surveillance, qui est numéro un mondial, qui n'existait pas il y a 5-6 ans, et pareil, qui a été financée par la Banque Chinoise de Développement, qui a racheté tous ses concurrents, qui équipe ou qui a équipé certaines bases américaines.
Et dans un pays, Pierre Aski, où il y a des caméras partout.
Il y a des caméras caméras partout et des caméras dont une partie maintenant produite par cette marque font de la reconnaissance faciale,
bien sûr.
Qui est au cœur du dispositif de sécurité chinois et du
combien
futur.
Combien de caméras dit-on en Chine?
On est à 300 millions maintenant de caméras, dont à peu près 100 millions font de la reconnaissance faciale. Et c'est la clé du futur compte de crédit social qui fait que toutes les données de votre vie sont concentrées et vous donnent une note de citoyenneté qui vous donne accès à des emplois, à des
logements.
Transports, à des logements.
C'est
etc.
super pratique.
C'est génial, c'est très pratique. une petite question et une limite quand même, parce que sur effectivement ces licornes, dans les, je crois que 35% des licornes du monde sont aujourd'hui chinoises, il y a quelques limites. Ce fameux encouragement, ce capitalisme d'État, il a aussi ses limites. Je crois qu'il y a une grosse réforme de la bourse en cours en Chine, parce que toutes ces boîtes, elles ne choisissent pas ni Shanghai, ni Shenzhen pour ce côté en bourse. Tencent, ils sont à Wall Street. WeChat est à Hong Kong. Et il y a une grosse limite aussi sur le manque de souplesse, finalement, de ce système chinois, fait que pour le moment, la bourse chinoise n'est pas à la hauteur de ce que cette industrie génère comme argent. Pour certains analystes, je ne sais pas si vous en faites partie, c'est aussi une bénédiction et une malédiction, ces stratégies de Xi Jinping si ouvertes, si victorieuses.
Oui, la bourse chinoise, en fait, c'est un casino qui a été créé pour permettre à des gens de s'enrichir au gré de la conjoncture, et même on les aide quand ils perdent de l'argent, on leur donne un tuyau pour une action qui va monter artificiellement. La bourse chinoise n'est pas un instrument de financement de l'économie.
Mais c'est pas problématique qu'elle soit cotée ailleurs.
Le financement de l'économie,
Chine.
Ce sont les banques, ouais. Donc c'est l'État. Mmh. Et là, on voit bien en ce moment, il y a un ralentissement assez considérable de l'économie chinoise. Bah, de nouveau, les banques sont incitées à prêter de manière assez massive pour relancer l'économie. Donc on est dans une économie qui a un mélange assez original et unique de capitalisme, de communisme d'État ou de capitalisme d'État, de communisme politique autoritaire et qui a marché jusqu'à présent. Et la question, c'est est-ce que ce système a atteint ses limites, notamment parce que l'accès au financement international sera peut-être plus limité. Alibaba, il faut s'en souvenir, en 2014, a été la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Et le Financial Times faisait remarquer l'autre jour, quand Jack Ma a fait son coming out de membre du Parti communiste, qu'est-ce qui se serait passé s'il était arrivé à Wall Street en disant « Bonjour, je suis communiste et je viens lever 25 milliards de dollars ». Voilà, c'est pas comme ça qu'il s'est présenté. Et il a trouvé plus que 25 milliards de dollars.
C'est un peu, oui, les résultats trimestriels des entreprises chinoises côté en Chine, c'est un petit peu ou même à Hong Kong, c'est un peu comme les prévisions de croissance du gouvernement chinois.
Hong Kong reste quand même encore l'instant une place financière sérieuse.
Ils ont des commissaires aux comptes qui sont peut-être un peu plus indulgents, et ça a été d'ailleurs longtemps dénoncé par des grands groupes occidentaux, c'est-à-dire que eux ne se battent pas avec les mêmes armes. Il y a quand même un peu plus de transparence sur les comptes des entreprises cotées aux États-Unis ou en Europe, et elles étaient beaucoup plus rapidement et sévèrement sanctionnées que des entreprises chinoises qui annonçaient parfois des chiffres un peu fantaisistes.
Emmanuel ?
Oui, juste peut-être pour tempérer aussi l'enthousiasme qu'on peut avoir sur les entreprises chinoises qui explosent. Il se trouve que Alibaba et Tencent essayent aussi de rentrer sur le marché du cinéma. Ils ont produit des grands films. Alors, il se trouve qu'Alibaba a produit le premier film avec un budget dépassant les 113 millions de dollars. Donc, c'est quand même un gros blockbuster américain, donc équivalent chinois, hein, pour le coup, qui s'appelait Azura. Donc, c'est une sorte de, d'heroic fantasy bouddhiste. Donc, si j'ai bien saisi. Il est sorti en juillet dans les salles. Il a fait 7 millions de dollars le premier week-end. Il a été retiré tout de suite puisque c'était la plus grande catastrophe de l'histoire de l'Hollywood chinois. C'était un énorme flop. Ils ont dit qu'ils retiraient le film, qu'ils allaient le remonter et évidemment le reproposer d'ici peu. On l'attend toujours 7 mois après.
Mais il y a une petite nuance par rapport à ça qui est intéressante et qui mériterait une émission tout entière, c'est que le premier impact de cet argent chinois qui a déferlé sur Hollywood, c'est que dans l'écriture des scénarios, les Chinois n'étaient plus le méchant, mais étaient le gentil. Et c'est sans doute une partie de l'opération.
Si on veut terminer cette première partie d'émission avec un peu de prospective, comment est-ce que tout ça va évoluer? Qu'est-ce qu'on peut... Alors aujourd'hui, on est encore, nous, pauvres petits Français, sur Twitter. Peut-être on sera sur les Weibo dans peu de temps. On est sur Facebook, on sera sur Renren. On utilise Google, peut-être on utilisera Baidu. On a parlé d'Amazon, ça sera Et c'est déjà Alibaba, WhatsApp c'est WeChat, YouTube c'est Youku, Netflix c'est Youku Premium, MSN c'est QQ, je pourrais en citer d'autres. Mais au-delà de ce qui déjà existe, à 10 ans, à 20 ans, c'est quoi la prospective de cette tech war, Pierre Inski?
Oui, je pense qu'il y a deux scénarios. L'un qui est celui dont on parlait tout à l'heure, de la divergence technologique, donc avec un monde divisé en deux dans lequel il faudra choisir son camp. Et vraisemblablement, la France ne choisira pas le camp chinois. Donc, elle choisira d'être, pour reprendre l'analogie de tout à l'heure, elle choisira d'être écoutée par la NSA plutôt que d'être écoutée par les services chinois.
Mais on peut être joyeux et dire on veut être écouté par tout le monde.
Mais l'autre scénario, c'est effectivement que cette crise puisse permettre d'apaiser ces relations, de sortir par le haut et de retrouver une interaction dans la confiance. Mais j'y crois peu, et en tout cas c'est pas le chemin qu'on prend, et en particulier avec parce qu'on a aujourd'hui, face au Made in China 2025, ben on a America First, et c'est là que ça se joue.
C'est redoutable aussi comme affrontement. Gilles Fontaine.
Je pense pas du tout qu'on puisse reverser dans un monde bipolaire. Ça me paraît très compliqué, en tout cas d'un point de vue technologique. Enfin, je vais peut-être gâcher la fête, mais moi j'ai un téléphone chinois qui marche très bien d'ailleurs, et je pense pas que ça s'arrêtera.
Cela étant, même un iPhone ou un Samsung, c'est quand même chinois. Donc de toute façon,
voilà, et qui marche très bien en reconnaissance faciale d'ailleurs. Et exactement ce que je voulais préciser aussi, c'est que malgré tout, les usines, la Chine reste encore aujourd'hui la plus grosse usine du monde, surtout pour Apple. Microsoft reste un énorme, la Chine reste un énorme marché aussi pour tous ces groupes américains. Donc, on est certainement dans un bras de fer.
Donc, c'est très interpénétré
Très dur. C'est très, il y a une capillarité extrêmement forte. Et je j'imagine pas du tout que du jour au lendemain, on puisse baisser le rideau, même si les Chinois sont capables de le faire avec leur propre internet. Nous, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, du côté occidental.
Emmanuel Paquette, pour terminer sur
j'ai une crainte qui est ce qu'on voit en Chine aujourd'hui, c'est que l'industrie militaire essaie de se rapprocher des BATX dont on parlait précédemment, Baidu, Alibaba, etc. Parce qu'ils ont l'intelligence artificielle, ils ont les données, donc ils savent entraîner l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est que l'armée aimerait bien en bénéficier pour des systèmes de reconnaissance faciale, de frappe, etc. Là-bas, ça se fait en sous-main. Aux États-Unis aussi, ils essayent aujourd'hui de se rapprocher des GAFA, de Google, Apple, Facebook. Google, il y a eu le projet Maven, qui était un système de cartographie intelligent pour éviter de frapper des civils pendant des bombardements. Ça a créé en fait une tension chez Google qui fait que Google a dû se retirer du marché, puisqu'il y avait plein de salariés qui étaient prêts à quitter la société. Exactement. Là, Microsoft a répondu à un appel d'offres qu'il a gagné au Pentagone pour créer un cloud pour le Pentagone. Donc on voit bien que les liens se resserrent entre l'industrie militaire d'un côté et les industries de l'Internet de l'autre, avec du côté américain des questions que ça pose en termes de démocratie. Est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut pas y aller? En Chine, ils se posent pas la question. Et l'idée, c'est que l'armée américaine dit là-bas, ils se posent pas la question. Vous nous enquiquinez avec votre moralité américaine, parce que eux vont prendre de l'avance dans leur armée grâce à leur technologie, leur fleuron d'Internet. Et nous, on a des fleurons d'Internet et vous voulez pas participer à l'armée et les aider. Ça va poser un problème. Donc c'est là où on va voir, en fait, les problèmes moraux de conscience et de démocratie qui vont se poser chez nous, en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, par rapport en Chine, qui eux continuent d'avancer.
Voilà, c'est la fin de cette première partie, mais on va rester sur ce sujet encore pendant au moins une trentaine de minutes, puisque nous allons revenir dans un instant avec vous, Zoé Sfez, sur WeChat en particulier, avec Stéphane Distinguin qui nous rejoint.
Qui nous rejoint parce que Stéphane Distinguin, qui dirige Faber Noël, vient de publier une étude passionnante pour essayer de comprendre les ressorts du succès de WeChat, super application. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette application, pourquoi elle est si différente et pourquoi est-ce qu'elle a pénétré 93% du marché chinois. Est-ce que, surtout, on risque un jour de l'avoir arrivé en France?
Et puis à 20h10, le Club de la Presse Numérique. On vous retrouve tous les trois, Pierre Inski, Gilles Fontaine, Emmanuel Paquette, pour un débat où on parlera ce coup-ci, non pas simplement de la Chine et des États-Unis, mais comment la Chine existe en France, c'est-à-dire des entreprises technologiques chinoises en France ou implantées en France. Tout ça à suivre après Billie Eilish sur France Culture. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out.
What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me.
À l'instant, la chanteuse Billie Eilish qui vient de sortir un nouveau single, à l'instant qu'on écoute Bury Your Friend. On l'a repéré pour sa musique inspirée par le film Roma, actuellement le film événement de Netflix. Et on l'annonce en concert à la Cigale à Paris le 18 février. Je crois que c'est déjà complet, mais c'est à Paris. Le 18 février, retenez son nom, Billie Eilish. 20h sur France Culture.
Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Stéphane Distinguin.
Bonsoir Zoé Svez.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec nous car vous êtes, depuis 2003, le créateur, le patron, le fondateur de Faber Novel, donc société dédiée à la transformation numérique, si on essaye de résumer votre activité, qui existe donc depuis 2003. Maintenant, je crois que vous êtes présent dans le monde entier, y compris en Chine.
Oui.
Depuis 2 ans, c'est ça ?
Tout à fait.
À Shanghai, puisque vous avez racheté un cabinet, une société qui avait des activités, disons, cousines, notamment de conseil, de ce que vous faites en France. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous implanter en Chine ?
Parce que... Est-ce que je peux dire que c'est là-bas que ça se passe ? Enfin, en tout cas, c'est là-bas que beaucoup, beaucoup de choses se passent. Et que ce qu'on a pu voir donc depuis 15 ans avec la montée de la Californie dans un premier temps. Parce que quand on monte il y a 15 ans, en fait, le mobile, il était surtout européen, japonais, coréen.
Nokia,
et puis après ça, on a vu avec l'iPhone se passer vraiment l'émergence et puis la surpuissance en fait de la Californie. Et là maintenant depuis quelques années c'est la Chine, c'est Shenzhen, c'est Shanghai qui donne le là.
Et donc vous y êtes, c'est pour ça que c'est bien. Vous faites partie, vous publiez très très régulièrement des très belles études. Vous l'avez beaucoup fait avec les GAFA, vous avez ausculté, essayé de comprendre les stratégies, fait de l'analyse. Et là, vous avez, la semaine dernière je crois, publié une étude assez passionnante sur le fameux cas WeChat. Pourquoi parler de WeChat ? Pourquoi il fallait qu'on se penche un peu sur WeChat ici, en Europe ?
Est-ce que on peut dire qu'ils ont réussi ce qu'on a raté ? En tout cas, c'est la première fois qu'on voit un modèle émerger qui est justement un modèle non californien qui n'est pas une copie de ce modèle non plus. Donc on a affaire à quelque chose de radicalement nouveau, très puissant, 1 milliard d'utilisateurs, des usages comme on les imaginait pas.
Taux de pénétration complètement fulgurant dans le pays.
C'est la Chine, la concurrence n'est pas tout à fait la même, il y a moins d'alternatives bien sûr, mais c'est 92% en fait de taux de pénétration du service. En Chine. Et c'est vraiment, ça vaut pour tout et pour tout le monde.
On parle d'une super application. Est-ce que vous pourriez peut-être essayer de résumer à ceux qui ne connaissent pas WeChat, qui ne sont jamais allés en Chine, ce qu'on fait sur WeChat ?
Alors, WeChat, au départ, c'est un service de messagerie. Donc, et d'ailleurs, le nom de Tencent, ça veut dire 10 centimes. C'était pris d'un SMS au début. Donc, ce qu'on fait, c'est on commence par des services qu'on connaît tous, d'échange de messages de personne à personne. Et puis après ça, c'est assez rapidement devenu, en fait, de service de messagerie, un système de réseau social. Et puis ensuite, ils ont ajouté en fait des fonctionnalités qui étaient des fonctionnalités d'échange et en particulier un fonctionnement de paiement. Donc ont permis aussi à des entreprises d'être en contact de ces utilisateurs. Et puis des services publics, des services comme Doctolib en France. On a à peu près tous les services en fait qui sont dans WeChat. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, nous, c'est de voir comment WeChat est devenu l'internet chinois.
C'est ça, parce qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment WeChat est devenu WeChat, avec en fait des stratégies tout à fait différentes. Déjà, comment est-ce qu'il est né, ce fameux service ? Il est né, je crois, de manière assez particulière, puisqu'on est au sein de Tencent, alors que Tencent a déjà une application de messagerie qui fonctionne plutôt bien. Il décide de prendre les devants, et en fait, c'est un concours interne qui a permis de mettre sur pied WeChat ?
Alors, Tencent s'est créé donc en 2001, en s'inspirant de services qui existaient déjà, et en particulier de messagerie. Et à cette époque-là, il y a un service israélien qui s'appelle ICQ, qu'ils copient, et ils font, eux, un service qui s'appelle QQ, qui est donc un système de messagerie
classique
sur PC, donc ouais. Pas sur mobile. Et en 2010, émerge en fait, avec le smartphone, des services qui sont des services de messagerie sur mobile, et en particulier Kik au Canada, qui est copié très très vite en fait par beaucoup d'acteurs. Ils sont à peu près une quinzaine à ce moment-là à LCD. Faut aussi comprendre qu'à son lancement en fait, WeChat n'est pas du tout parmi les premiers. Ils sont une trentaine, quarantaine sur la ligne de départ. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que WeChat a décidé en fait de faire un concours interne. Donc ça s'appelle dans la culture chinoise Saima. C'est le fait de pouvoir. C'est comme une course de chevaux. Donc ils mettent sur la ligne de départ là encore plusieurs équipes et l'équipe qui a gagné,
de l'entreprise.
C'est celle donc d'Alain Chang qui est donc le fondateur en fait en interne de WeChat et qui va porter comme ça en fait l'application encore aujourd'hui. Et le créateur du produit, donc il n'est pas le patron en fait de Tencent, hein, qui est Pony Ma, est un peu le Steve Jobs chinois.
Parce qu'en fait, c'est ça que vous expliquez dans cette étude qui est passionnante. Vous dites, c'est un modèle de ce qu'on appelle R&D, c'est-à-dire recherche et développement. Parce qu'ensuite, toute la culture de l'entreprise continue à être basée sur ça.
Complètement.
Plus encore, on a l'impression que dans les entreprises californiennes. Pourquoi?
Pourquoi? Alors déjà, simplement en termes de nombre de personnes, c'est 32 000 personnes Tencent et il y a la moitié des personnes qui travaillent à la R&D. Il y a un fonctionnement et une émulation. Donc, on a vu ce fonctionnement là, des courses des chevaux qui est répété à chaque fois. Il y a l'intégration de services. Il faut aussi insister sur le fait que Tencent, donc la maison mère de WeChat, est extrêmement connue pour ses jeux qui sont joués dans le monde entier, qui est le leader mondial du jeu vidéo aujourd'hui.
C'est surtout ça Fortnite,
qui l'a fait connaître. Donc Epic, qui est une participation majoritaire de... Et puis beaucoup, beaucoup d'autres jeux, des jeux en Chine.
Cette culture-là, elle irrigue, en fait.
Elle irrigue partout. Et puis, en fait, cette culture de l'écosystème, en fait, qui c'est vraiment ça qu'apporte, en fait, Tencent et WeChat.
Aussi, vous le dites.
Alors, travail d'équipe, c'est une culture qui est justement pas tout à fait peut-être ce que nous on entrevoit quand on parle de culture d'équipe. Ça peut être justement de la concurrence entre les équipes. Il est notable pour que Tencent, qui est basé à Shenzhen, les équipes qui ont développé WeChat ont décidé de s'éloigner, d'être le plus loin possible pour justement connaître cette indépendance. Donc il y a un modèle qui est un modèle particulier, comme ça, d'effervescence permanente, d'ajout de fonctionnalités, d'être très à l'aise avec la concurrence et la compétition, d'en choisir qu'un seul à la fin. Parce que là, il faut aussi insister sur le fait que WeChat, comme la plupart des géants de l'Internet chinois, sont très concentrés. Il y a peu d'alternatives. Il y a très peu d'alternatives.
Enfin, concrètement, aujourd'hui, vous allez en Chine, vous voulez voyager. C'est très, très, très difficile de ne pas télécharger WeChat. Justement, le modèle économique n'a rien à voir avec ce que nous, on connaît. C'est effectivement, vous l'avez dit, quasiment tout Internet. C'est la super application. Vous pouvez payer avec. Vous pouvez avoir des bons de réduction. Vous pouvez donner rendez-vous à quelqu'un en lui envoyant la carte. Vous pouvez effectivement payer. On l'a dit. Vous pouvez quasiment tout faire. Prendre un rendez-vous sur Doctolib, etc. Ce qui suppose qu'en fait, c'est une appli avec plein de mini-programmes et que c'est pas du tout le même modèle économique, par exemple, qu'il y a quasiment pas de pub sur WeChat. Pourquoi ?
Très peu de pub. D'abord parce que l'esprit même de WeChat, c'est de rendre service, plus qu'en fait de vendre de l'attention, qui est beaucoup plus le modèle des réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui, qui vous enferme.
Vous pouvez essayer d'expliquer, Facebook, c'est quoi le principe ? C'est de vous garder le plus longtemps possible.
C'est vous garder le plus longtemps possible et de vous exposer, de vous avoir à sa main, de façon à vous exposer à des contenus, qui peuvent être des contenus intéressants, des médias, votre avis sur beaucoup de choses, mais qui sont aussi assez régulièrement de la publicité. Là où le modèle de WeChat est radicalement différent, c'est qu'il y a beaucoup moins de publicité d'abord, parce que en fait l'audience est beaucoup, beaucoup plus segmentée, la donnée détenu par WeChat lui permet aussi de savoir beaucoup mieux en fait qui utilise et ce qu'ils veulent faire, puisqu'il y a beaucoup plus de transactions sur WeChat en fait que sur Facebook même. Et puis il y a aussi la capacité du réseau social et de la culture chinoise à faire que les utilisateurs eux-mêmes sont des agents de la promotion en fait des contenus et en particulier des marques, puisque, et ça aussi il faut quand même bien insister sur ce point, on parle beaucoup moins politique, il y a beaucoup moins d'échanges en fait d'opinions sur les réseaux sociaux chinois que sur les réseaux sociaux qu'on connaît nous, et qu'aller faire un tour en ce moment sur Facebook ou sur Twitter pour bien s'en persuader.
Mais justement, comment est-ce qu'il fonctionne ce modèle économique du coup? WeChat en fait est une espèce de met en relation des marques et des choisis. Comment est-ce que ça fonctionne?
Déjà, il marche extrêmement bien, parce que c'est pour une trentaine de milliards de chiffre d'affaires, c'est plus de 10 milliards de résultats, donc Donc c'est extrêmement rentable et le fonctionnement passe par en fait l'achat de petits éléments. Donc c'est vraiment ce qu'ils ont appris avec le jeu vidéo. C'est ce qu'ils ont aussi appris à un moment où ils ont hésité à rendre les messageries payantes. Ils se sont rendu compte que les personnes n'étaient pas du tout prêtes à payer. C'est encore venu d'ailleurs et ils ont très bien su copier le modèle coréen, en particulier des mini achats dans les applications, dans les jeux. Donc il y a cette partie là qui est extrêmement rémunératrice. C'est aussi le paiement de marques ou d'entreprises qui veulent être en contact avec une audience extrêmement qualifiée, donc qui paye cher pour le faire. Et puis ensuite, il y a les transactions elles-mêmes sur lesquelles en fait WeChat réussit à se rémunérer évidemment.
Un pourcentage. Une dernière question justement sur les données. On l'a bien entendu, vous l'avez dit, taux de pénétration faramineux, énormément de transactions, des utilisateurs extrêmement identifiés. On est sur une concentration de la donnée absolument faramineuse. Quid de cette donnée en Chine? Et puis, comment ça s'est soldé les quelques tentatives de WeChat de s'implanter ailleurs, avec notamment évidemment cette question, est-ce que ne serait-ce que pour la question pure de la donnée, ce serait possible pour eux aujourd'hui d'arriver en France, aux États-Unis? Ils ont essayé, ça n'a pas marché.
Alors, cette culture-là, on a déjà bien parlé du Saïma et donc de la course de choix, elle vaut aussi pour les géants de l'Internet. C'est-à-dire qu'il est très très clair que le pouvoir chinois a décidé d'avoir des champions, c'est le plan de Xi Jinping, pour 2025, du Made in China. Il a aussi décidé d'avoir des équivalents de GAFA. Et ces équivalents de GAFA, typiquement, c'est Alibaba et Tencent à qui il a confié en fait le paiement. Donc ça donne Alipay et ça donne WeChat Pay. Donc je veux dire, c'est que ce rapport à la donnée, il est beaucoup plus assumé, voulu en fait que n'importe où ailleurs. Donc la donnée est là, elle permet de faire des choses comme, enfin, je veux dire, qui intéressent particulièrement les annonceurs aujourd'hui, et ça se fait avec l'aval, l'assentiment en fait du pouvoir chinois. Donc ce qui est radicalement nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la CNIL qui n'existe pas et on voit à quoi elle peut servir en France. Donc et après ça, pourquoi est-ce que ça marche moins bien en Europe ou aux États-Unis? D'abord parce qu'en fait il y a déjà des applications qui existent, donc c'est pas facile de les remplacer. Hein. Vraiment l'idée c'est de voir que en général on en a quelques-unes dans son téléphone, on va pas avoir
une seule 17 qui fait tout.
Donc, voilà. Donc c'est vraiment le sujet. Donc on n'est pas tout à fait prêt à les remplacer par celle-ci, mais il faut bien noter qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, et en particulier avec WeChat Pay, c'est l'arrivée des touristes chinois. Moi, la pharmacie à côté de chez moi commence à prendre ce système de paiement, ce qui est surprenant. Et donc, cette conquête passera en fait aussi par les touristes chinois demain.
Merci beaucoup Stéphane Listinguin, vous restez avec nous pour la suite de ce débat.
Un débat qui aura lieu à 4, donc à 5 maintenant. Le temps, juste avant de vous recommander un article, petit clin d'œil numérique, c'est un long voyage de Gaspard Koenig à la découverte de l'intelligence artificielle à travers le monde. Le philosophe a voyagé aux États-Unis, comme en Chine, à Tel Aviv ou à Berlin. En résulte, 6 épisodes d'enquête qui vont donner lieu à un livre en septembre chez Plon et qui sont déjà à lire en avant-première sur lepoint.fr. Le premier épisode est d'ailleurs publié cette semaine dans le magazine lui-même en papier, dans son supplément Idée le Postillon. Gaspard Koenig y analyse la fin du libre arbitre. À lire donc Voyage au cœur de l'intelligence artificielle.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, pour terminer ce soir cette émission un peu spéciale consacrée à la Chine, avec exceptionnellement nos invités, nos chroniqueurs qui ne sont pas deux mais trois et même quatre, qui participent au club de la presse numérique. Nous retrouvons donc Emmanuel Paquet de L'Express, Pierre Aski de L'Obs et Gilles Fontaine de Challenge, avec Stéphane Distinguin qui est resté parmi nous et Zoé Sfez également. Après avoir longuement parlé de la Chine numérique et technologique dans la première heure de cette émission, on s'intéresse dans cette dernière partie à la présence en France des grandes entreprises chinoises du secteur des technologies. Quelle forme prend leur présence sur le territoire? Qui les utilise? Quels sont les risques et les avantages? Quel est le potentiel de développement économique de ces entreprises? C'est le sujet de ce club de la presse numérique. On commence avec vous, Pierre Aski, et vos expériences commerçantes du week-end, pour ne pas les citer, aux Galeries Lafayette ou...
Non, mais c'est vrai ce qui était dit juste avant. L'arrivée de centaines de milliers ou de millions de touristes chinois en France a changé la donne. Et aujourd'hui, vous allez dans un grand magasin parisien le week-end, vous avez à peu près un tiers de clients qui sont chinois et qui payent avec Alipay ou WeChat Pay, comme s'ils étaient à Pékin ou Shanghai. C'est rentré dans les mœurs et c'est aujourd'hui accepté. Et c'est vrai que ça a permis à ces systèmes d'être autorisés légalement en France et donc d'être. Mais après, le WeChat, moi j'ai WeChat dans mon téléphone, une application française, enfin en français, qui permet. Il y a quand même près d'un million de Chinois français qui utilisent énormément cette application. Et donc, il y a une vraie présence aujourd'hui de cet écosystème en France. Il n'est pas grand public parce qu'il n'a pas d'intérêt. Effectivement, il ne va pas remplacer aujourd'hui WhatsApp ou Facebook qui sont dominants, mais il existe.
Emmanuel Paquette, revenons peut-être à Huawei également, qui est dans l'actualité cette semaine. Alors, on a parlé dans le volet international, mais quid en France, puisque beaucoup de gens utilisent Huawei, ne serait-ce que pour leur smartphone.
C'est vrai qu'aujourd'hui, l'implantation de Huawei en France, elle est forte. Déjà, d'une part, parce que ils ont des laboratoires en France, notamment qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Donc, ils ont une présence forte. Ils ont tissé des liens avec pas mal d'universités. Donc, ça, c'est pour la partie entreprise. Pour la partie grand public, c'est vrai qu'aujourd'hui, les téléphones Huawei sont alors numéro 3, numéro 2 du marché.
La part de marché, on dit, c'est quoi, 10% contre quoi, 30% pour Samsung?
Pour le marché français?
Oui.
Normalement, c'est Samsung le numéro 1. Normalement, Apple est numéro 2. Alors là, j'ai pas encore les chiffres.
Il serait numéro 3, c'est ça?
Il serait numéro 3, ouais, très probablement sur le marché français. Alors, il y a un autre chinois qui arrive en même temps que Xiaomi l'année dernière qui s'appelle Oppo. Donc, ce sont des nouvelles marques qui arrivent. Donc, on va voir aussi si elles arrivent à se faire un peu une place face aux trois géants. Donc, et Huawei surtout commence à monter en gamme avec des terminaux qui maintenant ressemblent de plus en plus à un iPhone. Certains trouvent que même pour les
ça ressemble
derniers,
un peu trop, oui.
Un peu trop, voilà.
Ce qu'on appelait les fameux copycat aux États-Unis qui critiquaient la copie tout simplement par
exactement.
Les Chinois.
Et soit dit en passant, en France aujourd'hui, le premier prix que j'ai sur moi, c'est un Huawei, il est à 99€. Et c'est
oui,
un
c'est
téléphone
sûr. Alors après,
qui ressemble tout à fait aux iPhones que vous achetiez il y a 5 ans.
Alors après, ils ont une autre marque Huawei très entrée de gamme qu'on voit un peu en France, qui s'appelle Honor, je crois, de mémoire.
Honor.
C'est ça, exactement. Et là-dessus, ils font énormément de volume. Donc, c'est pour ça que ça leur permet d'arriver en numéro 3 du marché. Peut-être bientôt numéro 1 en 2020, hein, comme c'est aujourd'hui leur cible. Et il faut voir que derrière Huawei, surtout, ils veulent aller sur plein d'autres terminaux. Donc, les tablettes, ils avaient fait des tentatives à un moment donné. Mais maintenant, ils veulent rentrer sur le marché des téléviseurs. C'est une des dernières annonces qu'a fait le groupe. Donc, ils vont prendre une empreinte de plus en plus importante dans l'électronique grand public au sens large sur le marché européen. Et notamment en France.
Gilles Fontaine.
Oui, ils sont rentrés en fait sur le marché des terminaux Huawei un peu plus tard. Hein. Ils ont un peu plus tard que les autres et un peu par hasard. En fait, c'est les opérateurs télécoms qui leur demandaient de commencer à développer des gammes de terminaux. Et on se souvient que Bouygues Télécom, il y a déjà une quinzaine d'années, était parmi les tout premiers opérateurs français à utiliser du matériel chinois, du matériel Huawei pour ses réseaux. SFR également, et les opérateurs ont demandé effectivement à Huawei de développer ces terminaux au départ des terminaux plutôt abordables, bon marché, qui pouvaient proposer aussi à leurs abonnés et puis développer un système de rétention derrière. Les deux opérateurs français que je viens de citer, SFR et Bouygues Télécom aujourd'hui, ou jusqu'à présent étaient les deux seuls à utiliser ces matériels en France. Orange et Free se sont toujours abstenus, même si Orange utilise abondamment ailleurs à l'international. Par contre, sur les premiers tests 5G, Orange a commencé à déployer plusieurs dizaines de bases 5G de tests avec du matériel chinois de façon très discrète. Et on sait que la Fabienne Dulac, la patronne d'Orange France, a effectué tout récemment un voyage discret à Shenzhen pour commencer à discuter de la suite des événements.
Sur ce sujet, Emmanuel Paquette, Huawei est également en lice pour déployer la 5G en France dans les mois à venir et les années à venir. On le disait à l'instant, les Américains font aujourd'hui pression sur les Européens pour qu'ils choisissent d'autres prestataires.
Oui, alors il y a déjà en fait un message tacite qui est passé par le gouvernement, alors tacite et implicite, qui est de dire aujourd'hui vous n'utilisez pas de réseau 5G en test et même de réseau 5G tout court sur l'Île-de-France. Et interdiction d'utiliser des routeurs Huawei sur l'ensemble de la France. Alors l'idée, c'est de dire que l'Île-de-France, c'est là où il y a la majorité des décisions politiques et économiques qui sont prises. Et donc, on peut déployer de la 5G Huawei en dehors de la capitale et de l'Île-de-France, mais pas dans l'Île-de-France. Alors, un opérateur, dont je ne citerai pas le nom, s'est fait taper les doigts, justement, pour avoir commencé à déployer...
Moi, je peux le citer. SFR.
Voilà, disons. Exactement. Donc, alors c'est public, hein, donc je peux le dire aussi, mais et c'est vrai que c'est, c'est vrai que ça pose encore des problèmes. Mais c'est vrai que tout ça est tacite, pas explicite. Et donc c'est vrai qu'avec la loi Pacte et l'amendement qu'on attend justement qui devrait passer, ça devrait mettre sur la table des choses qui sont déjà plus ou moins, pour l'instant, faites dans. Mais dans l'invisibilité la plus totale.
Gilles. L'histoire d'Emmanuel est tout à fait incomplète parce que en réalité le matériel a été déployé place Ballard, le siège d'Altice SFR qui a pour
en face
voisin
du ministère de la Défense,
le ministère voilà. des Armées et les militaires ont moyennement apprécié.
Ouais, on peut imaginer.
Pas très loin non plus du siège de France Télévisions, mais juste il y a pas cette histoire d'autorisation préalable parce que je crois que la difficulté c'est qu'en même temps ils peuvent pas véritablement en France on ne peut pas faire du protectionnisme et donc viser explicitement les Chinois parce que c'est exactement ce qu'on leur reproche.
Ouais, exactement. Donc là, le système est un peu plus sioux. Donc dans l'amendement Pacte, c'est de dire que tous les équipements devront être certifiés par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et si ces systèmes sont certifiés, alors les opérateurs télécoms pourront les déployer. Alors là, les opérateurs télécoms ne sont pas contents parce qu'ils disent que ça va prendre du temps d'obtenir cette certification, que ça semble être coûteux aussi parce que ça peut se répercuter sur le prix final, même si pour l'instant ça c'était pas vraiment clair. Mais donc on voit des situations et des demandes qui sont un peu opposées entre d'un côté les opérateurs qui veulent aller vite et le gouvernement qui veut prendre du temps et mettre en place un système de certification.
Malin le Gaulois, hein, Terraski.
mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe à l'échelle de l'Europe, c'est le reflet de la relation complexe que l'Europe avec la Chine et le Huawei vient de signer par exemple avec Portugal Télécom et le Portugal est un des destinataires principaux des investissements chinois. Le Portugal a défendu plusieurs fois la Chine dans les conseils européens sur les questions d'investissement et donc on voit bien que les 27, 28 n'ont pas une position commune. Il y a eu cet incident récemment en Pologne où deux cadres de Huawei Pologne ont été arrêtés pour espionnage, dont un chinois et un polonais. Donc on a une diversité de situations et on va se retrouver avec une Europe où certains pays auront du matériel chinois, d'autres pas, ce qui complique évidemment la question sécuritaire.
Revenons sur la France qui est le sujet de ce club de la presse numérique. Il y a aussi un exemple très précis, et en l'occurrence ça concerne Xiaomi, à savoir l'ouverture sur les Champs-Élysées, Emmanuel Paquette, d'un magasin.
Oui, et juste quelques mois après l'ouverture d'un Apple Store, justement. Donc, on voit aujourd'hui que Xiaomi se veut se mettre dans la roue d'Apple. D'ailleurs, même le design du magasin ressemble à s'y méprendre à celui d'un Apple Store, c'est-à-dire très blanc, épuré, avec quelques meubles et la présentation des produits sur certaines planches à disposition.
Des tables, oui.
Des tables, pardon. Exactement, des tables, c'est mieux, oui.
Les Chinois, ils peuvent mettre des tables aussi.
Mais donc, on voit la même volonté de distribution dans des magasins haut de gamme, justement pour donner une image haut de gamme des terminaux qui sont proposés par Xiaomi.
Je pose la question à Stéphane Distinguin, puisque nous l'avons sous la main, qui est par ailleurs aussi le fondateur de Capdigital. Vous êtes là à double titre, c'est intéressant. Les gens avec qui vous travaillez, vos collègues,
les startups,
les gens de la tech, comment concrètement, si vous pouvez nous donner, pas des noms, mais une espèce de feeling général, comment ils regardent, comment est-ce qu'ils font? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est là où ça se passe. Il y a de la défiance, il y a de l'envie de travailler avec, ça se passe comment concrètement? Les approches entre la tech française et la tech chinoise, s'il y en a.
Elles ne sont pas structurées à date. C'est-à-dire qu'on continue toujours à avoir cette frontière avec la Californie. Je pense qu'en Europe, on n'est pas encore... Je pense que l'écosystème français a pas encore travaillé suffisamment sa relation avec la Chine.
Bah oui. Il regarde vers l'ouest et non pas vers l'est.
Bah toujours. Alors après ça, il y a évidemment des contre-exemples. Je me pose la question de savoir s'il est tout à fait opportun pour ces startups de regarder la Chine quand on voit quelles sont, enfin, comment ça marche, comment ça fonctionne, est-ce qu'elles ont autre chose à faire justement que d'arriver dans WeChat. En revanche. Les acteurs chinois sont d'énormes investisseurs dans les startups aujourd'hui parce qu'il faut, on parlait tout à l'heure de Tencent qui est quand même le premier investisseur au monde en fait dans des licornes devant Alphabet, Google aujourd'hui. Donc,
y compris donc sur de la tech française.
Alors, on en a malheureusement trop peu pour tout à fait les intéresser. Ce qui est un peu une façon de vous répondre sans faire une pirouette, mais c'est qu'on a aussi nous besoin d'être plus importants de façon à plus les intéresser.
On observe aussi des rachats, je pense à Tencent, leader mondial du jeu vidéo, qui est présent notamment au sein d'Ubisoft, Emmanuel Paquette, et avec aussi des perspectives de créer des alliances et des accords, par exemple avec Spotify, qui n'est pas un Français, mais en tout cas qui est un géant de la musique européenne.
En tout cas, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on a vu une guerre franco-française entre Ubisoft et Vivendi, qui essayait de prendre la majorité du capital, et que c'est finalement... Ubisoft a gagné cette guerre, mais a remplacé Vivendi par un Chinois, donc en l'occurrence effectivement Tencent, qui est rentré au capital. Et donc aujourd'hui, c'est un des plus grands acteurs mondiaux du jeu vidéo, hein, comme on l'a dit en début d'émission, puisqu'ils détiennent Supercell, ils détiennent aussi une partie, enfin 40% du capital d'Epic Games. Hein, donc derrière, c'est Fortnite, etc. Et puis c'est le moteur Unreal qui est utilisé dans la plupart des jeux de combat que les joueurs peuvent utiliser. Et puis c'est League of Legends, donc le plus grand jeu en ligne aujourd'hui, qui est développé par un Coréen qui s'appelle Riot Games. Donc aujourd'hui, Tencent sont vraiment très très forts dans l'industrie du jeu vidéo, y compris en Europe où ils investissent dans des studios.
Gilles Fontaine.
Oui, et pour ajouter à ce que vient de dire Emmanuel, Tencent c'est aussi Tencent Music, qui est un Spotify chinois, mais un peu plus gros encore, qui s'est introduit en bourse à la fin de l'année dernière, valorisé à peu près à la hauteur de Spotify. Et les dernières rumeurs veulent que le groupe pourrait aussi s'associer, peut-être prendre une part du capital d'Universal Music, le numéro un mondial d'éditeurs d'édition musicale, propriété de Vivendi aujourd'hui.
Stéphane Distingham.
Moi, ça me marque énormément de voir justement la culture populaire des adolescents aujourd'hui, elle est marquée par ces produits.
Alors même que tout le monde était japonais il y a 15 ans, aujourd'hui,
c'est fascinant. C'est ByteDance, Musical.ly, TikTok.
Ouais.
Enfin, c'est que petites filles et petits garçons, donc de Musical.ly, TikTok jusqu'à Fortnite. En fait, c'est des produits chinois en fait qui les occupent des heures et des heures par semaine.
Avec ça, Pierre Aski, Xi Jinping arrive en France dans quelques semaines.
Oui, il arrive le mois prochain, en fait. C'est le retour du voyage qu'avait effectué Emmanuel Macron l'an dernier en Chine. Et à un moment, justement, assez crucial, où ses relations avec les États-Unis sont en pleine guerre commerciale, guerre autour de Huawei, etc. Et les Chinois essayent d'obtenir une certaine neutralité de l'Europe dans cet affrontement entre les deux géants. Et ça sera intéressant de voir comment se passe cette visite. Je pense qu'Emmanuel Macron est très méfiant vis-à-vis de la Chine. Il avait prononcé le mot de réciprocité lorsqu'il était en Chine, qui est un peu son mantra dans les relations avec la Chine. C'est-à-dire que tout ce que peut faire la Chine en Europe doit être possible pour les entreprises européennes.
Pour l'instant, on en est loin.
Ce qui n'est pas le cas. Aucune entreprise européenne ne peut racheter une entreprise de technologie de pointe chinoise aujourd'hui. Et donc, il y a cet enjeu majeur. Donald Trump a sans doute fait l'erreur se lancer dans cette guerre à la fois commerciale et technologique contre la Chine en méprisant et en attaquant aussi l'Europe, alors qu'il aurait pu trouver en Europe des alliés parce que les Européens partagent les griefs sur les relations commerciales et technologiques.
Parce que c'est un marché de 500 millions, enfin 300, 400 millions d'habitants, je ne sais plus combien d'ailleurs, mais beaucoup en tout cas. Et donc
500.
500 millions, voilà.
Et en fait, on est pris, et ça sera l'enjeu de cette visite, on est pris dans cette contradiction majeure entre ne pas vouloir se priver du marché chinois qui reste un enjeu absolument majeur, et en même temps protéger nos intérêts à la fois commerciaux et sécuritaires. Et donc la voie est extrêmement étroite entre les deux.
Pour terminer, Emmanuel Paquette, un exemple, AliExpress, et là on voit que c'est aussi une manière de concurrencer Amazon sur le sol même de la France.
Oui, exactement, et puis l'agressivité de ces acteurs-là va peut-être aussi devenir un peu plus importante avec le ralentissement de la croissance chinoise. Si effectivement elle se confirme, les acteurs chinois vont devoir trouver des relais à l'extérieur de leurs frontières, et donc on est peut-être qu'au début, au démarrage de l'agressivité de ces acteurs-là.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous tous. Pierre Aski de l'Obs et de France Inter, Emmanuel Paquette de L'Express, Gilles Fontaine de Challenge, Stéphane Distinguin de Fab Nouvelle avec Zoé Sfez ce soir.
Toujours.
Dimanche prochain, nous nous intéresserons à la grande transformation en cours dans les fonds d'investissement numérique. C'est technique, mais vous verrez, c'est passionnant. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. Et j'ai encore le temps de vous signaler que Dominique Méda sera l'invité des Matins de France Culture. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.